Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous en direct à la radio et sur YouTube en vidéo. Vous êtes les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 9h temps universel. Dans 30 minutes, nous lancerons le débat sur la stratégie de l'opposition au Sénégal face à l'hégémonie du PASTEF, le parti présidentiel qui est en position de force à l'Assemblée nationale. Du coup, 76 formations de l'opposition ont décidé de s'unir au sein d'une nouvelle coalition, le Front pour la défense de la démocratie et la République, un front pour dénoncer d'une seule voix ce qu'il qualifie de logique de règlement de compte des nouvelles autorités. Alors que vous inspire cette initiative? L'opposition sera-t-elle audible? Quel résultat peut-on attendre de cette alliance? On en débat évidemment ce matin sur RFI, 33 9 693 693 70 et vos réactions qui nous arrivent, elles sont nombreuses, hein, du Sénégal. On nous écrit de Fatigue, de Dakar, de Touba, de Dagana, Ziguinchor, Bambay, Kaolack, encore à croire que tout le Sénégal nous écoute en ce moment. En tout cas, merci de votre confiance et votre fidélité. Mais d'abord, vous le savez, ce sont vos questions à la rédaction, des questions pour mieux comprendre l'actualité. Chkoulolo est avec nous ce matin, bonjour.
Oui, bonjour Juan.
À Niamey au Niger, merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous avez des questions sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo?
Oui.
On vous écoute.
J'ai entendu sur RFI que les milices armées appelées Zaïre et Codeco s'affrontent dans l'est de la RDC. Que sait-on de ces groupes armés? Quels sont les intérêts qu'ils se défendent?
Bonne question, effectivement. Deux groupes armés qui prétendent chacun défendre une communauté. Bonjour Pauline Azidi.
Bonjour.
Correspondante permanente de RFI à Kinshasa. Que sait-on de ces deux groupes armés?
Alors, les deux groupes armés dont on parle, ils sont ce pas des nouveaux venus dans la longue litanie des groupes armés présents dans l'est de la RDC. Les conflits communautaires sont importants dans la province dans laquelle ils agissent, l'Ituri. Et depuis 2017, l'affrontement Zaïre-Codeco endeuille les populations. C'est un cycle sans fin d'attaques, représailles, nouvelles attaques, nouvelles représailles. C'est un conflit qui a provoqué des mouvements massifs de population et la mort de milliers de civils. Ces conflits, ils opposent pas les populations ni les communautés, mais les milices qui s'en revendiquent. La milice Codeco, vous le disiez, prétend défendre les intérêts de la communauté Landou, principalement composée d'agriculteurs. La milice Zaïre, elle prétend défendre la communauté Emma, majoritairement pastorale. Alors pour la Codeco, à l'origine, c'est une coopérative agricole, d'où son nom, coopérative pour le développement du Congo, qui a pris les armes. Ils ont déjà été impliqués dans un conflit intercommunautaire entre 1999 et 2003, jusqu'à l'intervention d'une force européenne, l'opération Artemis sous commandement français. La Codeco est considérée comme l'un des groupes armés les plus meurtriers du pays et leur organisation est un peu complexe car ce sont plusieurs factions sans véritablement de commandement commun.
Et les Zaïre, eux, c'est plutôt un groupe assez récent qui est aussi connu sous l'appellation d'autodéfense des communautés victimes de l'Ituri.
Oui, il est un peu plus récent, effectivement. Selon le dernier rapport des experts des Nations Unies, publié en janvier 2025, cette milice a accentué son activité en 2024 avec des recrutements massifs et de l'acquisition de matériel et d'armement, des drones, des bateaux militarisés. Cette milice serait rapprochée du groupe M23 et de l'AFC de Corneille Nangaa, présent au sud et au nord Kivu. Et à sa tête, il y aurait les ex-criminels de guerre Thomas Lubanga et Yves Kawabango. Tous les deux sont accusés d'avoir repris les armes après l'invalidation de leur participation aux élections législatives de décembre 2023. Alors en avril 2024, plusieurs groupes, dont la Codeco, la milice Zaïre, avaient signé sous l'égide du gouvernement congolais un programme dit de désarmement, démobilisation. Il y avait ensuite eu une certaine accalmie sur le terrain ces derniers mois, mais les violences de ces derniers jours font craindre à la société civile une recrudescence de l'insécurité dans l'Ituri.
Et leur intérêt n'est pas que communautaire?
Oui, parce que ça, c'est le discours qu'ils mettent en avant, hein, cette nécessité de protéger leur communauté. Ça leur permet de jouer sur des peurs et donc de recruter. Mais toujours, selon le rapport des experts de l'ONU, il est quand même souvent question d'intérêts financiers. L'exploitation de l'or en Ituri continue d'échapper au contrôle de l'État, écrivent les experts, rapportant au moins 140 millions de dollars par an aux groupes armés et aux réseaux criminels. Et d'ajouter, bien que les coopératives minières payent la police nationale congolaise ou les FRDC pour leur protection, la plupart des sites miniers sont restés sous le contrôle des groupes armés tels que la Codeco et le groupe Zaïre dans le territoire de Djougou et la FRPI, le Front Patriotique et Intégrationniste du Congo et le MAPI dans le territoire du Rumu et enfin la Codeco encore dans le territoire de Mahagui. Hein, on le voit, 140 millions de dollars, c'est l'exploitation de l'or, c'est une source de revenus non négligeable pour les groupes armés qui s'assurent en faisant régner la terreur de garder la main mise sur ces territoires.
Voilà pour les explications de Paulina, Zidi, Chkou. Lolo, a-t-on répondu à vos questions? Êtes-vous satisfait?
Oui, parfait.
Eh bien, bonne journée.
Pareil.
Et merci, on a entendu le coq derrière vous, à Niamey, dans la capitale du Niger. Il est 9h16 ici à Paris. Vos questions 33 9 693 693 70. Des questions sur la guerre en Ukraine. Bonjour Esdras.
Bonjour Monsieur Wan, et sous votre permission, je voudrais adresser une pensée à Jessica Taïeb ainsi qu'à Anissa El Jabri.
Ah bah Anissa El Jabri, merci, elle doit certainement nous écouter. Et Jessica Taïeb évidemment qui m'aide au quotidien à préparer cette émission. C'est elle qui fait notamment le lien entre vous les auditeurs et l'antenne. Esdras, vos questions sur l'Ukraine.
Volodymyr Zelensky serait prêt à échanger des territoires avec la Russie. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui a pu pousser le président ukrainien à évoquer cette idée maintenant? Et surtout, de quel territoire parle-t-il?
Ah, bonne question. En tout cas, la Russie a d'ores et déjà rejeté la proposition du président ukrainien. Bonjour Xenia Zanoklei.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste spécialisée pour la rédaction ukrainienne de RFI. Nous échangerons un territoire contre un autre. Voilà ce qu'a déclaré Volodymyr Zelensky mardi dans un entretien accordé au quotidien britannique The Guardian. Je comprends la question d'Esdras, elle est pertinente. C'est vrai que jusqu'à présent, le président ukrainien rejetait toute négociation. Pourquoi donc une telle proposition maintenant?
Alors sans doute parce que c'est le moment où l'Ukraine doit clairement annoncer ses conditions pour la paix avant le futur négociation entre Trump et Poutine. On sait que Zelensky voulait rencontrer Trump avant qu'il ne discute avec Poutine. Du coup, ces propositions d'échange de territoire, c'est surtout un message pour l'opinion internationale et la nouvelle administration américaine. En ce moment, toutes les options sont sur la table pour d'éventuelles négociations et bien sûr l'Ukraine aussi fait ses propositions.
Alors, de quel territoire parle-t-on exactement?
Alors Zelensky n'a pas précisé quelles zones occupées d'Ukraine l'Ukraine voudrait récupérer en échange. Il a dit qu'il ne savait pas et qu'on verra, mais toutes les terres ukrainiennes sont importantes, il n'y a pas de priorité. Mais en Ukraine, les experts en discutent déjà. Ils disent qu'il ne faut pas forcément que l'échange soit un contre un, c'est-à-dire une surface équivalente à celle que la Russie occupe en Ukraine, parce que selon eux, la valeur de la région de Koursk est beaucoup plus élevée. Mais certains scénarios d'échange commencent à être évoqués.
Ouais, vous parlez de Koursk.
Oui.
Koursk, c'est cette région frontalière où l'armée ukrainienne est présente depuis maintenant 6-7 mois.
Oui, tout à fait. Dès le début, le contrôle d'une partie de la région russe a été vu comme une possible monnaie d'échange pour récupérer les terres occupées en Ukraine. Et à son maximum, l'Ukraine contrôlait environ 1300 km². Mais Moscou a déployé d'importantes forces et a réussi à reprendre une partie des zones perdues. Actuellement, l'armée ukrainienne contrôle entre 450 et 500 km², y compris la ville de Soudja et plusieurs villages. Malgré tous leurs efforts, les Russes n'ont pas réussi a repoussé complètement les Ukrainiens hors de Koursk. Et récemment, l'armée ukrainienne a même lancé une nouvelle offensive et élargi la zone qu'elle contrôle.
Donc, l'idée, Xenia Zanoklei, serait d'échanger Koursk contre des territoires occupés par la Russie.
Tout à fait. Et actuellement, la Russie occupe alors la Crimée, presque toute la région de Lugansk, une grande partie de Kherson, Donetsk et Zaporizhia, ainsi que de petits bouts de régions de Mykolaiv et Kharkiv. Par exemple, en région de Kharkiv, la Russie contrôle presque 2% de la territoire. Un échange possible pourrait être un retrait russe de cette zone contre un retrait ukrainien de Koursk. C'est un scénario probable. Pourquoi cette partie-là? Parce que, contrairement aux autres régions occupées, Donetsk, Lugansk, Zaporizhia et Kherson, qui ont été officiellement annexée par la Russie, la région de Kharkiv ne l'était pas. Donc, de ce point de vue, un échange autour de Kharkiv pourrait être le plus envisageable, peut-être même plus facile à faire passer auprès des citoyens russes. Mais certains experts militaires sont totalement contre cette idée, car ça revient à valider les revendications russes sur les autres régions occupées. Un autre scénario d'échange évoqué serait Koursk contre la centrale nucléaire occupée de Zaporijjia, que la Russie contrôle depuis le début de l'invasion de 2022. C'est ainsi un site stratégique et il pourrait faire l'objet d'une négociation spécifique, notamment pour des raisons de sécurité nucléaire. Mais une chose est sûre, l'Ukraine ne cédera pas sur la reconnaissance de l'annexion de territoires occupés, même si les États-Unis poussent dans ce sens. Et c'est exactement ce que veut Poutine, même c'est hors de question pour l'Ukraine, en même temps que le gouvernement n'a pas fait savoir comment ça va se passer.
Hier, Donald Trump a eu une très longue discussion téléphonique avec Vladimir Poutine. Il a ensuite appelé Volodymyr Zelensky. Savez-vous cette possibilité d'un échange de territoire a été évoquée?
Alors, on ne sait pas. On n'a pas encore lu la transcription de la conversation, mais les deux présidents ont annoncé l'ouverture de pourparlers. Poutine insiste sur le retour de l'OTAN aux frontières de 1997. Trump propose de se rencontrer, peut-être en Arabie Saoudite, et Poutine invite le président américain à Moscou. Et hier également, le secrétaire de la défense américaine Pete Hegseth a décrit le retour de l'Ukraine aux frontières de 2014 comme irréaliste, en déclarant l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN n'est pas envisageable.
À suivre donc. Voilà Esdras, a-t-on répondu à vos questions?
Oui, 5 sur 5, je suis satisfait et bravo à la Radio du Monde.
Merci de vos encouragements. À très vite, Xenia Zornoklei, journaliste spécialisée pour la rédaction ukrainienne de RFI. Vos explications sont d'ailleurs à réécouter à tout moment sur l'application RFI Pure Radio. 8h22 en temps universel. Bonjour Alain.
Bonjour.
À Accra, au Ghana, soyez le bienvenu. Quelles sont vos questions?
Le gouvernement israélien a une loi, une fois de plus, poussé une commission d'enquête sur les événements du 7 octobre. Qu'est-ce qui explique ces nombreux reports? N'existe-t-il pas une instance qui peut obliger le gouvernement à entamer une enquête?
Alors, c'est vrai que la question que tout le monde se pose, à quand une enquête sur les failles sécuritaires du 7 octobre 2023? Bonjour Frédéric Ancel.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur en géopolitique à Sciences Po Paris. Cela fait maintenant plus d'un an que les familles des victimes, les familles d'otages, ainsi que des ONG réclament la création d'une commission d'enquête. Pourquoi Benjamin Netanyahou s'y oppose-t-il?
Alors, c'est une excellente question de votre auditeur. La réponse, elle est très simple. Elle tient dans la volonté de Benjamin Netanyahou d'éviter ce qui apparaîtrait nécessairement comme des failles absolument béantes, sinon abyssales. Et ce qui est étonnant avec cette histoire-là, c'est que à chaque fois qu'il y a problème grave, avanie, échec militaire retentissant, parce qu'il y en a déjà eu dans l'histoire d'Israël, je pense notamment à l'affaire des premiers jours de la guerre du Kippour, guerre à la suite de laquelle une commission d'enquête, la commission Agranat, s'était mise sur pied, et il y avait finalement contraint moralement à faire chuter le gouvernement de la pourtant prestigieuse Golda Meir. Je pense également à la commission Kahana en 83 après les échecs de la guerre du Liban qui avait poussé Menachem Begin, autrement prestigieux que M. Netanyahou, a démissionné. Et je pense enfin à la commission Vinograd de 2006, après la première guerre de... deuxième guerre du Liban.
Il y a déjà eu, Frédéric Ancel, une dizaine ou une quinzaine de commissions nationales, mais pourquoi Netanyahou s'y oppose-t-il? Il dit tant qu'il y a la guerre, on ne pourra pas mener une telle commission, une telle enquête.
Mais parce que par définition, il est largement responsable des conditions qui ont permis l'avènement de ce grand massacre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Netanyahou, et c'est de notoriété publique, et d'ailleurs il s'en faisait fort, rien n'est caché, pendant plusieurs années, au cours des années 2010 en réalité, avait considéré que le Hamas, de toute façon, n'était plus une menace sérieuse. D'abord techniquement parce que la barrière qui séparait Israël de la bande de Gaza était censée être extrêmement performante, et en tout cas elle avait été très chère, ça c'est sûr. Et d'autre part parce que, croyait-il, le Hamas allait en quelque sorte s'embourgeoiser grâce à l'argent du Qatar. Je précise bien l'argent du Qatar, que M. Netanyahou lui-même laissait complaisamment s'introduire dans la bande de Gaza. Tout ça est totalement ouvert. Et il pensait que ces gens-là n'étaient plus ou ne seraient plus aussi extrémistes et qu'ils arrêteraient de faire la guerre. Et de ce point de vue-là, Netanyahou ne veut pas, bien évidemment, qu'une éventuelle commission d'enquête fasse toute la lumière là-dessus, parce qu'il serait vraisemblablement à ce moment-là obligé de démissionner.
N'y a-t-il pas tout de même une instance, une cour suprême peut-être, qui puisse obliger Netanyahou à commencer cette enquête?
Alors la Cour suprême, qui est effectivement l'un des, sinon le pilier aujourd'hui principal de la démocratie israélienne, elle lui a déjà demandé. Sauf que c'est une demande de nature consultative. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'a pas de prérogative quant à la possibilité d'imposer à un gouvernement israélien la création d'une commission d'enquête. Or, ce gouvernement, il s'appuie, comme vous le savez, sur une majorité à la Knesset, alors fragile certes, mais ultranationaliste. Et il est évident que personne aujourd'hui au sein de la coalition ne souhaite voir chuter Netanyahou, simplement parce que tous ces gens-là, en tout cas une grande partie de ces gens-là, ne seraient pas réélus si demain il y avait une nouvelle élection. En tout cas, c'est ce que disent les sondages.
Ouais, en tout cas, je rappelle que même si cette commission d'enquête n'a toujours pas vu le jour, le mois dernier, le chef d'état-major des armées a démissionné, une décision qu'il avait justifiée justement en reconnaissant avoir échoué à empêcher l'attaque meurtrière du Hamas qui a fait, je le rappelle, 1200 morts. Merci infiniment Frédéric Ancel, professeur en géopolitique à Sciences Po Paris. Je renvoie d'ailleurs nos auditeurs à votre dernier ouvrage, « Les voies de la puissance, penser la géopolitique au XXIe siècle ». C'est publié aux éditions Odile Jacob. Je souhaite une bonne journée évidemment à Alain qui nous appelait du Ghana. Allez, on repasse au standard avec une dernière question pour ce matin. Bonjour Christian.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Des questions sur Donald Trump et le FBI.
Tout à fait Juan. Donald Trump a nommé par erreur un nouveau directeur des FBI. Et comme la curiosité n'attend pas, je me fais le privilège d'en savoir un peu plus.
Oui.
Comment expliquer une telle méprise? Et est-ce que le président américain peut-il faire marche arrière?
Ouais, ça semble surréaliste. Bonjour Augustin Abran.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en histoire des États-Unis à l'université d'Orléans. Expliquez-nous comment Brian Driscoll s'est retrouvé propulsé à la tête de la police fédérale américaine alors que, visiblement, ce n'était pas lui qui était pressenti.
Oui, alors tout à fait, ça paraît totalement loufoque, voire absurde, effectivement. Il s'agit d'une erreur qui a été faite en fait par les services sans doute informatiques de la Maison Blanche sur le site officiel de la Maison Blanche. Alors il faut quand même peut-être recontextualiser un peu les choses, c'est-à-dire qu'en fait Donald Trump, l'administration Trump a été contrainte de nommer un directeur du FBI par intérim d'abord, puisque Christopher Wray, qui était l'ancien directeur, avait démissionné à la suite de la défaite de Joe Biden. Et donc en attendant un nouveau directeur du FBI, il fallait nommer par intérim un nouveau directeur.
Oui.
En l'occurrence, Robert Kissan était pressenti, hein, agent antiterroriste du bureau de New York, en numéro 1, et Brian Driscoll, effectivement, en numéro 2, enfin en adjoint. Et il y a eu une inversion qui a été faite, en fait, sur le site officiel, qui a propulsé Brian Driscoll en directeur. Cette erreur, elle nous paraît effectivement assez absurde, mais elle n'a pas été remise en question par l'administration, et donc Brian Driscoll a pris ses fonctions de façon assez marquée d'ailleurs, puisqu'il a d'emblée c'est devenu une sorte de figure, si vous voulez. On l'appelle Driz, hein, dans le bureau. Il est une figure anti-administration Trump,
oui.
Surtout il s'oppose, en fait, il s'oppose à la purge, hein, qui est annoncée de tous les fonctionnaires de la police
fédérale. Il refuse de fournir l'identité des agents du FBI qui ont enquêté sur l'assaut du Capitole.
Exactement. Une déclaration d'emblée en expliquant qu'il refusait de donner les 6000 agents, hein, qui ont participé justement aux arrestations des assaillants du Capitole de 2021. Lui-même d'ailleurs a été responsable d'une arrestation de Samuel Fischer qui était condamné à 3 ans et demi de prison dans ce contexte-là. Il se présente comme un grand défenseur de la Constitution et donc s'oppose à ces purges et en refusant de donner les noms. Alors finalement il va être contraint de le faire d'une certaine manière puisqu'un accord a été trouvé. Mais il représente en tout cas pour l'institution un rempart contre cette purge libertarienne et complotiste d'une certaine manière qui vise à l'administration à se venger de tous les fonctionnaires d'État qui le considèrent comme des ennemis de Donald Trump.
Augustin Abran, en 10 secondes, vous le disiez, il est directeur par intérim, c'est-à-dire que dans quelques jours, il y aura normalement Kash Patel qui a été choisi par Trump, qui a été auditionné au Sénat, qui devrait prendre ses fonctions s'il est confirmé par le Sénat.
Oui, justement, je voulais nuancer la question de votre auditeur, parce qu'en fait, effectivement, aussi marquant cet événement soit-il, il s'agit d'un directeur en intérim. Dès novembre, Donald Trump avait nommé Kash Patel. C'est un processus du système de checks and balances américain qui fait que le président a la prérogative exécutive de nommer le directeur du FBI.
Et ça prend quelques semaines.
Ça prend quelques semaines. Mais cache pas tel. Ça doit être validé par le Sénat, ce qui est actuellement en cours.